vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre-Henri Salfati qui nous parle de sa fabuleuse histoire du Juif errant qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, Arte Édition. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors c'est un plaisir de vous recevoir ici. Vous êtes scénariste, réalisateur de cinéma et de télévision. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs articles et essais, dont un livre sur le Talmud, Enquête dans un monde très secret, qui est apparu chez Albin Michel. Et votre actualité aujourd'hui, c'est la parution de la fabuleuse histoire du Juif errant aux éditions Albin Michel, Arte Édition. Alors, de quoi parle votre livre? En fait, c'est l'histoire de la légende du Juif errant depuis sa naissance jusqu'à ses prolongements encore de nos jours que vous racontez au lecteur. Le Juif errant né d'une légende chrétienne médiévale anti-juif, le Juif errant aurait été un cordonnier de Jérusalem qui aurait refusé à Jésus de faire une halte devant son échoppe sur le chemin de sa passion. Et pour le maudit, en fait, Jésus l'aurait maudit en le condamnant à errer. Et le lecteur vous suit dans ce récit jusqu'à ses adaptations inattendues en figure positive au temps récent, notamment au monde juif où la figure du Juif errant est même devenu, on est même devenu à désigner tous les juifs ou des personnalités étonnantes. Alors la première question qui s'impose, oui. Pierre-Henri Salfati, comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire du Juif errant?
C'est intéressant. En fait, c'est une histoire que moi me poursuis, pour ne pas dire que je la poursuis, depuis des années. Alors d'une part, si vous voulez, par le fait que tout ce qui relève de la judaïté me passionne forcément quand on fait des études rabbiniques, talmudiques, et en plus de ça, quand on fait des films et qu'on prétend donc devoir en faire sans cesse, on s'intéresse plus particulièrement à des sujets qui nous touchent plus ou moins près, et ceux qui sont assez loin finissent par devenir plus proches par le besoin même d'aller construire de nouveaux films, de nouveaux récits, de nouvelles histoires. Mais l'affaire du Juif errant, elle est vieille comme Caïn dans la Bible. Quand on étudie Caïn, cette figure du frère fratricide, les gens n'ont pas forcément à l'esprit que Dieu l'envoie errer du côté du pays de Nod, dit la Torah, et Nod veut dire errer. Donc c'est d'ailleurs le récit de Caïn, le récit biblique, le récit juif de Caïn, qui va inspirer saint Augustin et d'autres antisémites notoires, et notamment ces moines anglais du XIIIe siècle qui vont développer l'affaire et faire de Caïn le prototype du juif maudit par le ciel.
Et il faut dire Caïn, c'est quand même la figure de celui qui commet le premier crime de l'humanité par le fratricide.
C'est ça, oui.
Donc c'est intéressant. Donc c'est une démarche personnelle finalement qui vous conduit.
Oui, bien sûr, c'est une démarche personnelle dans le sens, si vous voulez, où tout ce qui est juif ne doit pas m'être étranger. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, effectivement, quand on s'intéresse au premier crime, par exemple, qui est celui que Caïn commet sur la personne de son frère, on se rend compte que ce n'est pas un simple crime. On dit, d'ailleurs, la Torah emploie le mot « sang » au pluriel, parce que c'est un double crime, déjà. C'est-à-dire, il tue quelqu'un, mais en plus, c'est son frère. Donc, il y a une double puissance là, et cette double puissance, on va la retrouver systématiquement dans la Torah.
Donc ce serait Caïn qui aurait influencé cette représentation du Juif errant, une représentation chrétienne et anti-juive.
Voilà, c'est saint Augustin au IVe siècle va se demander pourquoi les Juifs sont encore vivants, ils devraient disparaître, parce que lui, en tant que chrétien, dit-on, il estime que Dieu ne fait pas son travail en laissant encore survivre les Juifs, et puis finalement il invente une théorie. Il va puiser même dans la Torah elle-même, parce que le peu qu'il en connaît, à savoir que si les Juifs survivent, c'est que Dieu les a maudits pour survivre. Donc l'Église doit continuer cette malédiction, ne pas les tuer, n'arrivant pas à les convertir, n'arrivant pas à les exterminer, n'arrivant à rien avec leur entêtement à vivre. Il a inventé une théorie qu'il est allé chercher même dans la Torah elle-même, en disant, ben voilà, la figure de Caïn doit être un prototype de ce que Dieu attendrait de nous qui n'aimons pas les Juifs. Et ça, c'est extraordinaire. On est au IVe siècle. Mais la légende elle-même va se développer de façon littéraire au XIIe et XIIIe siècle. Mais basée sur ce principe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on fait des études, on va dire, talmudiques, c'est que avant même Caïn, ses propres parents étaient des Juifs errants, puisqu'ils ont été exilés du paradis. Donc ils étaient déjà en état d'errance. Et on va se rendre compte, quand on est sérieux dans l'étude, que c'est finalement ce qui ressort de l'éternité du juif, c'est qu'il est toujours errant.
Et d'ailleurs, le juif errant est éternel.
Exactement.
Et puis, il a des prénoms aussi. Il a le prénom Assuérus ou Isaac. D'où ça vient, ces origines?
C'est très intéressant. En fait, il a des dizaines de prénoms. Des dizaines. D'ailleurs, j'ai fait un film où j'ai tout un passage du film qui raconte tous ces prénoms. Boutadéo, Cartaphilos, un tas de noms. Et finalement, on se rend compte que tous ces noms ont leur propre histoire. C'est un peu long à raconter. Et le nom générique qui va survoler de tous les autres, c'est le nom d'Assuérus. Personnage extraordinairement biblique, si on peut dire. Et pourquoi, dans la littérature antisémite, on a choisi finalement ce nom, c'est-à-dire qu'il a emporté sur tous les autres, c'est que certains auteurs chrétiens, qui n'aimaient pas trop les juifs, se sont rendus compte que les juifs braillaient dans les synagogues, disent-ils, le jour de Pourim, quand ils entendaient le nom d'Assuérus. Donc ils se sont dit, celui-là, ils n'aiment pas. Alors ça sera très bon pour notre personnage.
Oui, et on aurait pu penser que ça serait plus davantage Mordechai, un juif, que Assuérus.
Bien sûr.
De la même manière que Jésus maudit ce cordonnier qui lui refuse de se reposer. Ça paraît aussi
un
anachronisme.
Tout ça n'est pas très catholique. Exactement, et c'est là qu'on voit que l'histoire du juif errant n'est pas une histoire a priori juive. C'est-à-dire c'est une histoire antisémite et ils sont allés chercher tous les codes pour signifier leur antisémitisme.
Et alors le cordonnier, est-ce que ça a aussi une incidence, le fait que ce juif errant eh bien, va beaucoup marcher, errer, et que ça soit un cordonnier?
Fabuleux, extraordinaire, oui. C'est-à-dire que ça quadruplé même à la malédiction de ce personnage sous sa croix. C'est-à-dire qu'il a choisi finalement, par hasard, de s'asseoir, d'après les gens de là, de chercher un peu de repos, parce qu'il était en train de s'épuiser sous ces deux planches cruciforme, on allait le crucifier, et donc le cordonnier sort, et le cordonnier lui dit « marche, marche, marche !» Genre, si tu dois... Alors, il y a des légendes qui disent que c'est le cordonnier lui-même, qui est un ami d'enfance de ce Jésus, il se connaissait depuis longtemps, et lui était charpentier, le Jésus, charpentier, fils de charpentier, il commençait à apprendre l'ébénisterie, et l'autre fils de cordonnier... À Saint-Delard, le cordonnier, donc, il faisait des souliers. C'est peut-être même lui qui lui aurait fait ses souliers pour aller. Donc, comme il lui dit marche, marche, marche en tant que cordonnier, pour montrer que ses souliers ne sont jamais usés, bah, ce Christ-là, ce personnage plus ou moins légendaire, plus légendaire que réel, lui aurait dit, bah, écoute, tu veux me faire marcher jusque-là, moi je te ferai marcher avec tes souliers de tout au long de la terre. Bah, il ne s'est pas rendu compte que parmi les premières publicités du monde publicitaire, on est au début du siècle, des grands marchands de souliers se sont servis dans leurs affiches du juif errant avec des chaussures Perrin qui feront 10 fois le tour de la terre. Ce Christ, voulant le maudire, à tous les niveaux, qu'il soit cordonnier, juif, etc., va finalement en faire un surhomme. C'est ça qui est fascinant.
Alors, on va en parler dans un instant. Vous nous expliquez bien, dans votre fabuleuse histoire du juif errant, toutes les représentations et l'évolution de ces représentations. Pourquoi cette figure fait autant recette? Pourquoi elle plaît autant?
C'est très, très formidable ce que vous dites. C'est vrai que, à titre d'exemple, pour illustrer ce que vous dites, nous sommes allés à Épinal, cette fameuse ville que personne ne connaît réellement. À moins d'y être allé comme on est allé exprès.
Alors, je vous interromps, oui, juste, vous dites on est allé, etc. Il faut expliquer aux auditrices, aux auditeurs de la fréquence juive, c'est qu'il y a un livre et qu'il y a aussi un film qui va être diffusé prochainement à la télévision.
Sur Arte, oui, merci de préciser, effectivement. Et donc, on est allé filmer à Épinal, pourquoi? Parce que figurez-vous qu'à Épinal, dans les Vosges, première grande imprimerie d'images, hein, quand on dit l'image d'Épinal, c'est que chronologiquement, c'est à Épinal qu'on a commencé à imprimer, on va dire, les premières images, mais même les premières BD, c'est assez extraordinaire. Eh bien, la première figure de la première image d'Épinal est le juif errant. C'est assez extraordinaire. Et en fait, grâce à l'imprimature, l'imagerie d'Épinal, ce juif errant va rentrer dans toutes les maisons des bons chrétiens de France, d'Europe. Et pour ainsi dire, tous les foyers auront face à face ce Christ crucifié sur la croix devant le mur, qui fait face au juif errant sur son autre mur. C'est assez inouï. Et à la décharge ou à la charge, selon le camp que l'on choisit, eh bien, de ceux qui ont voulu faire de ce personnage un personnage caricatural, critique, l'antisémitisme virulent de ceux qui l'ont imaginé, ils ont été stupéfaits, dépassés par l'événement, c'est devenu une figure extrêmement populaire. Alors effectivement, Sandrine, parce que pour ces gens-là, quand les ecclésiastiques de l'époque leur posaient la question, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec ce juif errant ? On leur envoyait au visage l'idée que ben, vous inventez un Christ qu'on ne connaît pas, mais lui, ce juif errant, s'il passe par là, il nous dira, puisque lui y était. Lui, il l'a connu, lui, il a vraiment vu. Ça sera le vrai témoin de la passion. Et vous, c'est de la fiction. Et donc, c'est devenu une figure qui trimbalait avec elle cette véracité du témoignage de l'Antiquité. Et puis, en plus, s'il a vécu tant d'années, il va nous raconter plein d'histoires.
Donc, oui, finalement, c'est la bonne parole. C'est le témoin de la réalité de la passion et de la parole du Christ.
Alors ça, au départ, c'est ça. Et puis, alors après, si vous voulez, c'était le témoin de l'histoire. Puisque des siècles se sont écoulés, il est toujours là. Donc, il a rencontré le Christ pour commencer, et puis après, il va rencontrer toutes les plus grandes figures possibles, s'il a le temps de ne pas s'ennuyer, hein,
justement, de parcourir les routes. Est-ce que ça a été facile pour vous de suivre la légende du juif errant ? Et est-ce qu'il y a des grandes étapes ? Alors, on en parlait il y a un instant, dans l'évolution justement de ces représentations liées à l'antijudaïsme, le fait qu'il devienne une figure populaire et qu'il soit aussi accepté en monde juif. Et je crois qu'aujourd'hui, vous me dites si j'ai tort, mais quand on parle du juif errant, certains juifs pensent que c'est une invention juive.
Oui, c'est vrai, parce que la judaïté, pour se défendre, on va dire, de toutes ces attaques, est obligée de récupérer les ennemis et en faire soit des amis, soit les laisser à leur propre disparition. Et effectivement, alors, il y a beaucoup d'étapes dans cette affaire qui correspondent à des moments historiques tout à fait spécifiques. Et de toute façon, il faut avoir à l'esprit qu'il y aura comme un clignotant. Si le juif errant sera parfois positif, parfois négatif, parfois positif, parfois négatif. Et en fait, dans cette espèce de va-et-vient entre la lumière et les ténèbres, bah, c'est un peu l'histoire de l'humanité qu'il va raconter, ce juif errant. Et alors, ce qui est extraordinaire, et la vraie difficulté n'était pas de trouver des documents. La vraie difficulté, c'est de faire le tri. Parce qu'on n'a jamais écrit autant sur ce personnage. Des anonymes au XIIe siècle, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, et puis après des gens plus importants, des gens que l'histoire a retenus, jusqu'à des très fameux auteurs. Ben, Alexandre Dumas n'a pas pu achever son Juif errant, il voulait en faire la plus grande œuvre de sa vie. Et lui, il ne l'a pas appelé Assuérus pour se démarquer de Gensu et d'autres auteurs, il l'a appelé Isaac Lakedem. Lakedem de l'hébreu Kedem, qui vient là avant, qui était là avant, qui sera là après. Mais je vous cite Alexandre Dumas, on peut parler d'auteur.
Alors on en parlera dans un instant. Oui. Un point sur lequel peut-être vous pourriez nous éclairer davantage. Pourim. Oui. La célébration où les rôles sont inversés, la fête des masques, les masques tombent, se revêtus par le juif errant. Mais la légende évolue aussi et la signification évolue jusqu'au Messie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre cette figure du juif errant et peut-être l'avènement du Messie lié à la fête de Pourim ?
C'est très intéressant, bien sûr. Alors déjà, le fait qu'ils aient choisi ce nom d'Assuérus, les contenteurs de la judaïté, ceux qui sont contre Israël. Assuérus est le roi qui figure en première ligne du livre d'Esther. Et qui est celui qui aurait persécuté les Juifs ou les laissé persécuter, et puis finalement qui sera le sauveur, et qui finalement sera à l'origine du fait même, par sa descendance, de reconstruire le Temple. Donc on voit cette figure hallucinante de l'ennemi qui devient non seulement l'ami, mais même l'allié, et en plus de ça, le constructeur du renouveau d'Israël. Donc la figure emblématique de cet Assuérus est à la tête de cette histoire hallucinante de Pourim, puisqu'on dit dans la tradition hébraïque pure que la fête de Pourim sera la seule que le Messie conservera. C'est-à-dire, en fait, Mordechai et Esther doivent être considérés, et ça, je m'excuse, mais je fais cette citation tout à fait talmudique et même kabbalistique, le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, écrit, enfin du moins on écrit sur ses leçons, nous enseigne que Adam et Chava se sont réincarnés en Mordechai et Esther. C'est-à-dire que Mordechai et Esther représentent en fait le tikkun, la réparation du péché originel. C'est-à-dire que la fête de Pourim représenterait la réparation à elle seule de cette erreur originelle. C'est assez extraordinaire de comprendre pourquoi finalement le Messie ne gardera que cette histoire. Mais elle est dite en filigrane, tout ça se passe en filigrane. Et le fait qu'on ait choisi la figure d'Assuérus, on va dire par hasard, que les auteurs antisémites, les moines bénédictins d'Angleterre, de France et d'ailleurs ont choisi la figure d'Assuérus. Au final, on a gardé cette figure-là, sans se soucier même de ce qu'il y avait derrière, à part le fait que les juifs faisaient du bruit quand on prononçait son nom dans les synagogues. Ils auraient pu appeler le juif errant Haman, mais non, ils l'ont appelé Assuérus, du nom même, sans se douter de celui qui va sauver. Rappelez-vous, c'est-à-dire Haman, on dit, on va attaquer les juifs en bruit, parce que ces mages lui auraient dit, Moïse est mort. Mais les mages ont oublié que Moïse est né aussi. Alors, ça, c'est un petit détail d'érudition pour ceux qui veulent. C'est que Moïse est mort en Hadar Rishon, mais est né en Hadar Sheni. Et les astrologues de Haman ne sont pas allés jusqu'à Hadar Sheni quand ils ont analysé chaque jour de l'année pour savoir quel moment il faudra attaquer les Juifs. Ils ne pensaient même pas qu'il y avait un 13e mois cette année-là. Et en fait, ils se sont arrêtés à une partie de l'histoire, c'est-à-dire la malédiction, mais ils ont raté la suite qui était la bénédiction. Assuérus est une malédiction au départ et il devient une bénédiction. Et c'est ça la figure des Juifs errants. Pour vous donner un exemple extraordinaire, vous avez cité Pourim et le fait qu'on se déguise. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée est le renversement des valeurs. Il ne faut pas le voir simplement en sens nietzschéen du terme « on va renverser les valeurs pour le plaisir de faire la révolution ». La démarche messianique est de rendre ce monde injuste, juste. Et c'est ça le renversement des valeurs. Il est temps de faire le contraire de ce qui se passe. C'est-à-dire les fausses valeurs qui régissent le politique, l'historique, etc. Je ne vais pas faire tout le panel de toutes ces sciences dites vraies, mais finalement manquant même de véracité. Eh bien, le renversement total, c'est que ce monde injuste devienne juste. C'est ça la leçon de Pourim. Et le juif errant va colporter dans ses aventures multiples et variées le fait du carnaval lui-même. Lui-même, c'est un frigoli. C'est un peu le Yosef de l'histoire de Yosef et ses frères, qui va prendre plein de costumes. Et d'ailleurs, c'est un costume que son père lui offre, une tunique, qui va être à l'origine de son meurtre prémédité. Et il va finir en tunique multicolore comme Pharaon. Mais entre-temps, il a pris le costume du serviteur, de l'esclave, de l'interprète des rêves. Voilà. Ce frigoli-là, ce juif errant-là, qui prend tous les costumes. Mais figurez-vous, un peu de gens le savent, que le carnaval de Venise, qui est le carnaval le plus fameux de l'histoire, eh bien, il date précisément du fait de la recopie par le monde vénitien du ghetto de Venise et des Juifs qui faisaient Pourim. Et d'un seul coup, c'est devenu une fête, un festival, et comme vous le disiez, tout ça est messianique, c'est-à-dire que le vrai sens du carnaval, c'est la fête qui nous attend. Et d'ailleurs, l'expression elle-même employée par, on va dire, Salomon lui-même, qui va, figurez-vous, inaugurer le temple de Jérusalem le jour de Kippour. Et il fait un festin, il fait une fête, à tel point que l'on enseigne dans la tradition hébraïque, Kippourim, Kippourim. C'est-à-dire le jour de Kippour, le 10, Tishri, où Shlomo inaugure même le Beth Amigdash, je vous rappelle que c'est le jour où Moshe a reçu la Torah. Il ne l'a pas reçu le jour de Shavuot, où tous les Juifs fêtent finalement quoi? Le fait que Moshe ait brisé la Torah? Et il va remonter une deuxième fois, une troisième fois, et ce n'est que la troisième fois, le 10 de Tishri, le jour de Kippour, qu'il reçoit la Torah. Pourquoi on n'a pas institué finalement Matan Torah le jour de Kippour? Tout est à l'envers, vous voyez, tout est renversé. Eh bien, Shlomo, qui va faire Pourim le jour de Kippour, alors que Kippour précède Pourim de plusieurs siècles, eh bien, pour nous signifier que Pourim est même plus grand que Kippour, puisque c'est la référence même, ce renversement des valeurs d'un monde triste à un monde gai. D'un monde terrible à un monde merveilleux. C'est l'idée messianique. Et ce messie, vous savez, il y en a eu plein dans l'histoire hébraïque. Des vrais, des faux, des vrais faux.
Des considérés comme, voilà. Ouais.
Et donc ce sont des déguisements sans arrêt de l'histoire. L'histoire se déguise, aime à se déguiser. Notre juif errant représente aussi le messie, c'est vrai. C'est-à-dire cet homme apparemment secondaire, maudit par un faux messie pour les juifs. On ne peut pas imaginer que Jésus soit le messie des juifs, puisque les juifs sont encore en exil, alors que lui-même, s'inspirant des prophètes hébraïques, n'a pas fait le job du tout. On ne peut pas, et donc c'est justement contre cette obstination juive que saint Augustin va s'opposer, dire les juifs, il y en a marre, les juifs, il y en a marre. Et bien finalement, le juif errant n'est toujours pas arrivé, malgré le texte fameux d'Albert Londres, qui a fait son grand succès, qui a fait qu'aujourd'hui Albert Londres est le patron de tous les journalistes. C'est 27 chapitres, écrits, articles, si vous voulez, qui ont été condensés en un ouvrage qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé ». Parce que pour Albert Londres, la Palestine nouvelle, le sionisme naissant, était la fin de l'errance juive. Mais non, cher Albert, le Juif errant, même au pied du mur des Lamentations, supplie Dieu de le ramener à Jérusalem. Et donc il est toujours en errance. Et le messianisme, justement, le vrai Messie, c'est celui qui met un terme de façon unanime à cette errance juive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient penser que si les Juifs arrêtent d'errer, ils disparaissent de la surface du monde. Non!
Alors justement, c'est que quand on est aujourd'hui au XXIe siècle et qu'on jette un regard en arrière sur le peuple juif, eh bien on associe souvent les Juifs, leur itinérance aux Juifs errants. Et vous parliez tout à l'heure de Nietzsche, Zarathoustra, ce surhomme, et finalement cet homme, le Juif errant, qui porte, comme Zarathoustra, la responsabilité du monde. Et on en vient évidemment à penser à l'élection du Juif, au peuple élu, et l'association entre Juifs errants, responsabilité, peuple élu.
Sandrine, vous parlez comme Sarah Soustra. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Oui. Alors, en plus, le personnage de Zarathoustra, qui est un personnage extraordinaire.
On peut en dire beaucoup de choses.
Par l'histoire, que la Kabbalah et que d'autres textes, même perses, associés à Abraham, on dit c'est une figure, un avatar d'Abraham, sauveur du monde. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, ce fondement ontologique de l'association d'une errance et d'exil à l'existence du peuple, ça a fait son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit même les paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une terre d'Israël qui existe, mais les trois quarts des habitants sont toujours à l'extérieur. Ils ne sont pas encore unanimement associés à un programme dont Albert Londres était persuadé qu'il était une fin en soi. À son époque, c'était déjà un scoop de s'intéresser aux Juifs. Albert Londres a traversé toute l'Europe centrale, du fin fond de la Moldavie jusqu'à la Lituanie, en disant, à un moment donné, le Juif errant était dans ma voiture. Donc c'est déjà un sujet d'intérêt tout à fait nouveau, tout à fait neuf. Et puis, après le sionisme naissant, qui est né à Paris, Dreyfus était considéré comme, justement, ça fait partie des étapes négatives du Juif errant. C'est-à-dire, tous les ennemis de Dreyfus disaient que c'est un Juif errant. Errant d'alcôve en alcôve, de galerie en ambassade, de présidence en caserne, pour trimballer avec lui dans ses sacoches les secrets de ses ennemis qu'il va donner à ses amis.
Oui, c'est l'accusation au moment de l'affaire Dreyfus, le cosmopolite, et les Dreyfusards qu'il défendent aussi.
C'est ça. Donc il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, Dreyfus était un Juif errant, nommé Juif errant. Un autre Juif va l'être de façon absolument extravagante, mais réelle, c'est Léon Blum. La presse antisémite va le dire, le Juif errant. Celui qui fait rentrer les Juifs aux doigts crochus dans ce pays, celui qui donne notre pays aux étrangers. Il est aussi une des figures, hélas, pour ceux qui aiment Léon Blum et le Juif errant, comme une figure négative. Donc ça a été, ça fait partie de l'histoire. Mais associer l'errance juive de façon ontologique aux Juifs, c'est une chose que la Torah décrit comme étant nécessaire à la venue du Messie. Et d'ailleurs, dans la Gemara, dans le Talmud, Psarim, une page de ce traité, évoque le fait extraordinaire que Dieu n'aurait imaginé l'exil que pour aller chercher toutes les âmes disparues, de même ceux qui ne seraient pas nés juifs, mais auraient une âme juive, disparue, parce que dispersée dans le monde, et donc on va disperser les juifs pour aller chercher ces âmes, et ce serait ça le sens de l'exil, vous vous rendez compte? Mais cet exil a bien une fin en soi qui est en fait réellement ce que le sionisme a tenté, parce que Dieu n'y faisait rien. Les gens étaient partis d'une bonne intention. Puisque Dieu, tu ne fais rien, on va le faire nous. Ça ne marche pas comme ça, apparemment.
Toujours plus compliqué. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de la fréquence juive, en compagnie de Pierre-Henri Salfati, qui nous parle de la fabuleuse histoire du Juif errant qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, Arte Édition. Vous l'avez dit, hein, la légende a pénétré le monde de la littérature. En France, on pense à Eugène Sue, qui en change la vision, celui qui devient finalement le Juif errant, le bienfaiteur des petites gens. Est-ce que c'est ça le début, eh bien, de cette figure populaire qui devient positive?
En tout cas, vous citez Eugène Sue à juste titre, ça a été l'auteur des deux grands best-sellers du 19e, Les Mystères de Paris, du Juif errant. Un carton absolu, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pourquoi c'est une figure si populaire. Alors lui, à sa façon, puisque le juif errant s'habille dans les événements de l'histoire, 3 ans avant le manifeste de Karl Marx et plusieurs années avant Victor Hugo et Les Misérables, il invente un espèce de prototype du sauveur des damnés de la terre. C'est-à-dire le juif errant de Gensu vient sauver non pas le petit peuple juif, mais le petit peuple tout court. C'est-à-dire il devient un héros charismatique qui va se mettre au service des petites gens contre les jésuites à l'époque qui étaient comme une espèce de complotiste qui aurait entre les mains en pouvoir. Et Gensu, lui, qui est un feuilletoniste, hein, ça serait aujourd'hui un scénariste de Netflix, donc il écrivait des feuilletons, mais il est tombé sur cette idée, il l'a récupéré pour traiter du problème de société de son temps, qui était effectivement une injustice effroyable. Et donc voilà que le juif errant de Gensu devient le prototype du marxiste, du socialiste, de celui qui va, soi-disant, bénir le monde. Enfin, avec Gensu, c'était le cas. Après, on sait ce que sont les ravages des meilleures intentions, parfois.
Et il y a une autre vision aussi, avec cette fois-ci un juif, Edmond Fleck, qui brise peut-être la malédiction. Vous parliez de l'affaire Dreyfus, et bien au moment de l'affaire Dreyfus, Edmond Fleck développe sa conscience juive, et donc il écrit sur le juif errant, et il en fait comme finalement l'apôtre de la réconciliation avec le monde chrétien. Oui. Il pose les bases des amitiés judéo-chrétiennes.
Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Il y a tout un chapitre dans ce livre sur un ouvrage d'Edmond Fleck qui est le juif errant vu par Jésus lui-même. C'est-à-dire qu'on donne la parole à celui qui l'aurait maudit. Et c'était pas très chrétien de dire, puisque tu me fais marcher, toi, je vais te faire marcher jusqu'à ce que je revienne. Donc il essaye de trouver des circonstances atténuantes à ceux qui auraient pu voir dans ce Christ un personnage malédicteur des Juifs et en faire un bénédicteur. Et effectivement, ce que ça sous-tend, ce n'est pas simplement de faire l'apologie de... Ce que ça sous-tend, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il faut réconcilier les frères ennemis. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de ressusciter des choses disparues? Eh bien oui. Et Edmond Fleck a été un apôtre de la chose, un instigateur de la négativité vue comme positivité.
Est-ce que ce cliché du juif errant est toujours brandi par les antisémites? Et la question, c'est que les musulmans aujourd'hui qui ont fait revivre des clichés, on pense enfin, à des tas de choses, est-ce que ce juif errant est présent au monde musulman?
Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, déjà pour répondre, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui le juif errant culturellement aurait disparu de la surface des bibliothèques et des journaux et des news. Mm-hmm. En fait, il faut savoir ce petit détail avant de parler de l'islam. En Haïti, aujourd'hui, cette petite île maudite par l'histoire, maudite par le climat, maudite par les ouragans, les tremblements de terre, bien figurez-vous qu'on a été stupéfait, et pour le film on s'y est rendu, de savoir qu'une fois par an, il y a un carnaval à Haïti, et le héros de ce carnaval, un des héros principaux du carnaval, est le juif errant. Ils se disent eux-mêmes juif errant, juif de l'éternité. Pourquoi? Moi, j'ai interrogé ces gens. Vous avez des tas de Père Noël habillés en bleu avec une étoile de David sur la toque, ce sont des juifs errants, et qui chantent avec, imaginez, là-bas dans les Caraïbes, peut-être chanter, danser, oui, etc., des comptine brabantine du XIIe siècle, par cœur. Pauvre juif errant qui... Et quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec le juif errant? Leur réponse est extraordinaire. Et en fait, pour la faire courte, eh bien, quand les premiers chrétiens sont arrivés sur cette île qui était en fait française et donc indépendante pendant la Révolution, eh bien des communautés danoises, polonaises sont arrivées et dire mais vous faites le carnaval, mais pourquoi vous avez choisi ce carnaval? En fait, le gouverneur d'Haïti, lui, il avait choisi ce carnaval pour populiste, pour être très populaire aux yeux de la civilisation, on va les faire. Mais vous avez oublié le personnage du juif errant. Mais c'est quoi le personnage du juif errant? Les gens ne savaient pas. Ah ben c'est celui-là, celui qui a maudit le Christ. Mais comment ça, il a maudit le Christ? Eh bien oui, ben, le Christ marchait, etc. On s'est parlé d'histoire il y a 2 minutes.
Et il s'est retourné, il a dit, ben, toi, tu me fais marcher jusqu'à la croix, moi, je te ferai marcher jusqu'à ce que je revienne. Et les Haïtiens ont dit, mais c'est pas très chrétien, ça. Et donc, nous, on préfère le juif errant à quelqu'un qui, sous prétexte, soi-disant, de ne pas tendre réellement la joue quand on l'a frappé la première, même va maudire. Oui. Donc, c'est extraordinaire de savoir, Sandrine, qu'en 47, quand l'ONU décide d'un État pour Israël, c'est grâce à Haïti que l'État existe. C'était la voie qui manquait. Et jusqu'à aujourd'hui, les Haïtiens et les Israéliens sont dans un accord tacite que tout Haïtien est un Olé Khadash. Que tout Haïtien, à n'importe quel moment de l'année, peut aller en Israël sans visa. Ils sont citoyens israéliens. Et quand j'ai demandé à ces gens, qu'est-ce que veut dire Haïti pour vous ? Ah ben vous savez, nous ça s'appelait Hispaniola, les noms de cette île ont été trois fois changés, et on a choisi de prendre le nom des Indiens Taïnos, qui étaient les premiers qui habitaient là avant tout le monde. Et pour eux, Haïti veut dire une petite montagne, un petit refuge. Et moi je leur ai dit, mais vous savez que Haïti en hébreu veut dire quelque chose. Vous allez aujourd'hui en Israël, Haïti vous l'entendez chaque jour. Oui. Voilà, oui. C'est le verbe être au passé, j'étais, et là je les ai sidérés. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Mais c'est étrange, parce qu'ici chez nous, on dit que les Indiens Taïnos, ce qu'on appelle Indiens Taïnos, étaient une des tribus perdues d'Israël, qui est venue par le détroit de Béring s'installer ici, faire un très long voyage. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est étrange, parce que j'ai su, lui dans son juif errant, son feuilleton, il fait naître ou apparaître le juif errant depuis le détroit de Béring.
J'ai été à Haïti. Et dans les représentations de l'islam, alors, est-ce que comme les faux protocoles des sages de Sion, etc., le mythe du juif errant surgit ? Est-ce que vous
alors, en fait, on n'a pas la figure en islam du juif errant en tant que tel. C'est-à-dire que l'islam, le juif errant, il doit disparaître. On va dire ça. Donc, on ne va pas cultiver l'histoire du juif éternel en islam. Si le juif est éternel, c'est comme pour le Reich, pour le Führer. C'est vrai qu'il y a un antisémitisme intégral au courant pur. Il y a une vraie réconciliation à faire ici. Pour le nazisme, excusez-moi du rapport, mais il existe dans la figure du juif errant. Pour Adolf Hitler, que son nom soit oublié, le film du Reich le plus représentatif était Der Ewige Jid, le juif éternel. Et si vous voyez ce film, j'en mets quelques extraits dans mon propre film, c'est la figure du juif errant dans toute sa splendeur. Mais le juif errant comme un insecte, le juif errant comme un rat, le juif errant comme le parasite qui va parasiter...
La vermine.
Et pour l'islam, il n'y a pas cette figure du juif errant. Par contre, vous avez des musulmans voyageurs, des gens qui ont beaucoup voyagé dans le monde et qui ont repris, et il faut le savoir, beaucoup des grands savants de l'islam, beaucoup des grands voyageurs de l'islam étaient des juifs convertis de force à l'islam. Donc on peut retrouver... parfois, dans la littérature de l'islam, quand elle est magnifique, des points communs. Mais il n'y a pas la désignation du juif comme errant. Hein, c'est plutôt quand on va désigner, hélas, le juif, à part le peuple du livre, et la condition de dimitude, de diminuétude, je dirais moi-même. Eh bien, en fait, non, c'est intéressant. Il n'y a pas cette figure qu'on opposerait à un islam conquérant, un islam glorieux, le juif errant... miséreux, désastreux, on n'a pas cette figure. On est plus radical, si vous voulez.
Alors, vous expliquez aussi dans votre récit eh bien, les prolongements actuels, avec des personnages réels ou fictifs actuels à l'époque contemporaine ou un peu plus anciens, avec des personnages aussi fascinants et différents que, par exemple, Spinoza, Superman ou Monsieur Chouchani. C'est encore une fois des masques différents que revêt ce juif errant.
C'est ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme un peu comme un D-book dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il vient là, il est toujours là, présent, il vient habiter chez les uns, chez les autres, en transversant les siècles. Alors effectivement, le fait qu'on les fait immortels, le fait qu'on les fait échapper à tous les dangers du monde, on en a fait un héros, on en a fait un surhomme. D'ailleurs, en 1933, les deux auteurs de Superman, qui vont inventer Superman, contre le Reich. Au départ, c'était on va détruire Hitler et ses collègues. Et on invente un immortel et on s'inspire du juif errant. Quand vous citez la figure de M. Chouchani, M. Chouchani, c'est exactement le prototype absolu Et je sais que vous écrivez un livre là-dessus, je m'attarde vraiment de le dire.
Ça arrive, ça arrive.
Ça arrive.
Et c'est vrai qu'il naît à Brise, qu'on l'aperçoit en Palestine ottomane, il est aux États-Unis, il est en Afrique du Nord, à Berlin, en France, il repart en Israël, il finit ses jours en Amérique du Sud, en Uruguay. C'est le juif errant, et d'autant plus que les étapes géographiques, eh bien, de son itinérance expliquent aussi les étapes de sa formation intellectuelle.
C'est formidable. Et en vous écoutant, là, je vois le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, de l'instantanéité, ce qu'on appelle aussi la polymathie, c'est-à-dire ils sont capables de faire tellement de choses, ces juifs-là. Et M. Chouchani, et en plus, Sandrine, Chouchani, c'est la ville de Pourim. Chouchan Abira.
C'est Suze.
Chouchan. Et lui-même, M. Chouchani, se faisait appeler Mordechai. Donc c'est l'anti-Assuérus, si vous voulez. Mais dans le choix de son pseudonyme Chouchani, il y a bien la référence à cette fête de Pourim messianique. Et lui-même, c'est une des incarnations les plus extraordinaires. Et je vous souhaite plein de lecteurs pour votre livre, parce que vous avez choisi un sujet fascinant.
Merci beaucoup. Alors, vous en parlez dans votre livre, et on s'aperçoit quand on finit sa lecture que finalement, le juif errant n'est pas mort. Est-ce qu'il n'est pas finalement en chacun de nous ?
Il y a forcément en chacun de nous tout. Hein, ça, c'est un midrash qui dit Adam Arishon, Chava sont faits avec de la terre de partout, pour que la terre partout les reconnaisse. Et en fait, on est tous un peu tout le monde. Nous sommes tous en puissance l'autre. Et ça, c'est un discours du juif errant, c'est-à-dire le juif errant existe que dans le regard de tous les autres qui veulent le croiser, qui veulent le faire parler, qui veulent le faire se raconter. Mais il n'est pas question dans toutes les légendes du juif errant d'un juif solitaire, simplement damné à marcher tout seul sur la terre. Non, il va traverser tous les continents, traverser toutes les personnalités qu'il croise, et nous sommes, nous-mêmes, à l'écoute, chez nous, de cette errance en nous. Vous savez, Jacques Lacan s'est intéressé au personnage. Freud aussi s'est intéressé très vaguement. Mais quand Freud, amoureux de sa mère, détestant son père, dit cette formule ressassée, tuer le père, dans le sens de l'oxyre, Lacan dit tuer le père, dans le sens du verbe être. Quand Freud dit le nom du père, faisant référence à une chrétienté, à ce que l'on veut d'ailleurs, qui ne soit pas juif, Lacan, lui, traduit le nom du père par le nom dupe, erre. Celui qui n'est pas dupe, c'est celui qui erre. Donc il faut errer pour ne pas être dupe. Et nous-mêmes, pour ne pas être dupes de notre propre condition, de ceux qui sont ici, malgré eux, les êtres humains, qui vont partir d'ici, malgré eux. On n'a pas demandé à naître, on ne demandera pas à disparaître. Comment se fait-il que finalement, si on nous demandait si on veut disparaître, on dirait « laissez-moi au moins jusqu'à demain ». Et que si on nous avait demandé notre avis pour venir, on aurait certainement dit non. Comment ne plus partir d'un endroit dans lequel on n'a pas voulu venir? C'est ça l'errance. Entre ces deux contradictions avec la vie, c'est-à-dire la vie forcée et la mort obligée, nous sommes en errance. Et ça, ça nous habite forcément. Il y a en nous, ce que disait Heinrich Heine, un juif allemand, nous sommes tous ce juif errant et nous ne le savons pas. C'est merveilleux.
Il y a une question difficile pour conclure cette émission, mais classique. Hein. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre ouvrage, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Qui ne coûte pas cher.
Eh bien voilà. En tout cas, c'est vrai, il coûte que 19,90 € pour un joli ouvrage de plus de 200 pages. Ouais. Alors moi, je donnerais un autre argument. C'est vraiment une plongée fabuleuse dans une histoire finalement qui est très méconnue. Et puis vous en parlez presque de manière romancée et c'est très agréable à lire. Et c'est un ouvrage que l'on ne peut que recommander aux auditrices, aux auditeurs de la Fréquence Juive. Merci pour cette enquête.
Ben, Sandrine, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
Alors bonsoir et à très bientôt, peut-être pour parler d'un autre sujet
avec
qui
grand
vous
plaisir.
Habite.
Avec grand plaisir.
Bonsoir, au revoir.
Bonsoir, merci.